Bonjour, je suis Saadia Yacoub, psychologue au centre hospitalier Sainte-Anne, service addictologie et en détachement pour quelque temps encore de la maison d'arrêt de Paris La Santé. Je dois préciser que nous avons une petite modification dans le programme de cet atelier, à savoir qu'il ne peut être, il ne sera pas présidé par Florence Aubenas, qui avait donné son accord en fonction de sa disponibilité sous réserve, et François Besse en dira quelques mots, et que d'une part le professeur Laidly, qui dirige un service en Algérie qui est l'un des pionniers de l'intérêt porté aux usagers de drogue et en milieu carcéral en Algérie, n'est pas parmi nous non plus en raison d'un problème personnel. Pardon.
Fadi Meroué, je suis médecin, je suis responsable du NUXA dans une maison d'arrêt au sud de la France, à Villeneuve-les-Maguelones. Ce n'est pas très connu, mais c'est près de Montpellier.
Arratsaldeon, eta mila esker denere etortzeagatik. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je m'appelle Mercier Colina et je voudrais parler plus particulièrement de la situation des prisonniers politiques basques incarcérés.
François Besse, je suis l'un des permanents de la section française de l'Observatoire international des prisons. Je travaille notamment sur les questions de santé et d'accès aux soins des personnes détenues. Et puis, parallèlement, je coordonne les actions pour l'Île-de-France et les départements et pays d'outre-mer. Voilà. Donc, je voulais vous passer un petit mot de la part de Florence Aubena, qui est bloquée en retard sur le livre qu'elle fait et donc qui est cloîtrée pour encore deux bons mois et qui n'a pas pu se libérer. Voilà.
Alors, je vais rappeler le cadre de la prison. Donc, il faut savoir qu'il y a 101 maisons d'arrêt qui hébergent en principe des personnes condamnées à des peines inférieures ou égales à un an. En réalité, ce n'est pas du tout ça, puisqu'il y a des personnes détenues pour des durées de condamnation beaucoup plus importantes et qui se retrouvent en maison d'arrêt avant leur transfert sur d'autres établissements. Il y a 40 centres pénitentiaires, 25 centres de détention et 6 maisons centrales pour les longues peines. Concernant les mineurs, il y a 46 centres éducatifs renforcés, 6 centres éducatifs fermés. Les aménagements de peine sont effectués en centres de semi-liberté au nombre de 11, ce qui est bien évidemment largement insuffisant. Il y a également un centre national d'évaluation des prisons, qui est l'ancien centre national d'orientation, plus un établissement public de santé national, qui est par contre sous tutelle du ministère de la Santé. Le dispositif sanitaire, en principe, il y a une loi et une réforme importante en 1994, postulant une équivalence de soins dedans, dehors, et surtout transférant la maîtrise des soins de la tutelle du ministère de la Justice à celle du ministère de la Santé. En réalité, des disparités très importantes sont constatées selon les établissements. Pour les soins somatiques, donc loi de 94 dont je viens de vous parler, qui a permis l'affiliation des détenus au régime général de la sécurité sociale, création des unités de consultation et soins ambulatoires qui assure la prise en charge psychiatrique et addictologique lorsqu'il n'y a pas de secteur de psychiatrie et addictologie implanté sur l'établissement, qui assure les relais sanitaires
en intra et en post-carcéral et qui a des missions de prévention. Les équipes sont évidemment composées de médecins somaticiens, généralistes, spécialistes. Le docteur Meroué, qui dirige une UCSA, pourra développer ces questions-là, cette organisation-là, si vous le souhaitez. 2009, création des unités hospitalières sécurisées interrégionales, les fameuses UHSI, concernant des hospitalisations de personnes détenues sur des périodes inférieures ou égales à 48 heures ou pour des périodes plus longues. Soins psychiatriques, 1985, création des secteurs de psychiatrie en milieu carcéral, les SMPR, sont au nombre de 26, qui bien évidemment est là encore très insuffisant, assurent donc comme mission principale des prises en charge en ambulatoire ou en hospitalisation, où la personne détenue est hébergée, entre guillemets, sur l'unité SMPR implantée sur l'établissement, et ces soins et hospitalisations se font sur consentement. Sauf si, bien évidemment, la personne détenue n'a plus son libre arbitre. Ça a été confié donc au service public hospitalier. Il y a toujours un hôpital hospitalier de rattachement. Par exemple, pour la maison d'arrêt de la santé, c'est le centre hospitalier Sainte-Anne. Concernant le service médical pour la maison d'arrêt de la santé, l'hôpital de proximité de rattachement, c'est l'hôpital Cochin. En psychiatrie, prise en charge, évidemment, psychiatrique, vous en doutez, et addictologique, dépistage des troubles mentaux, suivi, mise en place de relais sanitaires. 2002, création des UHSA, c'est l'équivalent des UHSI à un autre niveau, mais ça suppose à terme la suppression de l'hébergement et de l'hospitalisation à l'intérieur de l'unité SMPR. Concernant la dictologie, en 92 ont été créées des unités spécialisées dans la prise en charge des personnes toxicomanes. 95-96, une innovation importante, introduction des traitements de substitution aux opiacés. 2009, transformation des CSST de 92 en XAPA. La mission est élargie à toute forme d'addiction, avec les missions de dépistage et de repérage, traitement de sevrage, suivi, prescription des traitements de substitution aux opiacés, suivi psychologique et social, prise en charge des comorbidités somatiques et ou psychiatriques, et évidemment, continuité des soins post-carcéral, c'est-à-dire préparation à la sortie. Concernant les chiffres, au 1er octobre 2011, alors, place opérationnelle, 56 556. Personnes écrouées, détenues, 63 602. Densité carcérale, selon les établissements, il y a à peu près 83 établissements sur le parc pénitentiaire où la densité, donc la surpopulation, elle s'échelonne de 120 à 200%. Concernant les infractions pour les personnes condamnées, ce sont les violences volontaires qui sont les plus importantes, suivi des viols, agressions, atteintes sexuelles et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Alors, cette donnée concernant les stupéfiants est un petit peu nuancée parce que les statistiques ne différencient pas le trafic de l'usage, par exemple, et les délits associés. Moyenne de détention pour les peines inférieure ou égale à un an, pardon, 80%, alors des personnes condamnées. Concernant les longues peines, dont il va être question par Madame Collina tout à l'heure, 500 à 600 condamnés pour une moyenne de peine de 23 années de détention. Les aménagements de peine seraient en légère augmentation, mais restent quand même peu élevés. Vous voyez le taux, 16,5%. Et l'on sait qu'il y a 85 000 peines dont les aménagements, mais je n'ai pas malheureusement les chiffres, qui ne sont pas mis à exécution. C'est les réactions que vous pouvez avoir de telles victimes qui disent ben, « je ne comprends pas, il y a eu un flagrant délit, on m'a volé mon sac, il est allé au commissariat, on l'a gardé quelques heures et puis je l'ai retrouvé dans ma rue. Voilà. » On se doute bien pourquoi, insuffisance de personnel, de magistrats, de travailleurs sociaux, de personnel affectés aux tribunaux et aux juges d'application des peines, notamment les éducateurs spécialisés. Alors, le contexte, je pense que je ne vous apprends rien, malheureusement. Population particulièrement vulnérable, précarité socio-économique, sanitaire, sociale, des comorbidités somatiques et ou psychiatriques, 25% de personnes détenues souffrent de troubles mentaux. Concernant les usagers de drogue, le risque pour le VHC est multiplié par 10 en prison et pour le VHB par 4. Il y a des pratiques à risque, pratiques d'injection, partage de matériel souillé, tatouage et piercing. Les conduites agressives, alors auto-agressives, suicide, 2010, 109, 2011, 63, et l'année n'est pas finie. Non compris le taux de tentative de suicide. Les mineurs, c'est un élément nouveau. Depuis janvier 2011, 3 suicides de mineurs en éducation, en établissement pardon, pour mineurs. Une donnée nouvelle qu'on avait déjà évoquée au THS prison il y a 2 ans, le taux de suicide des personnels de surveillance. Il est supérieur de 31% à la population générale. Il y a une étude INSERN qui vient d'être publiée sur des données 2005-2010. Je n'ai pas le temps non plus de parler dans un autre contexte encore que du suicide des policiers ou des gendarmes. Conduite hétéro-agressive, nette augmentation d'actes agressifs non seulement contre les personnels de surveillance, mais aussi contre d'autres détenus. Alors, je voudrais rappeler d'une part, que le détenu est d'abord une personne, quelle que soit l'infraction, la religion, le contexte, etc., et un patient. Il doit avoir droit aux soins, y compris ce qu'on oublie également en amont de l'incarcération, notamment lors de la garde à vue, qui, vous savez, peut être prolongée jusqu'à 96 heures pour les affaires de stupéfiants. Donc il y a des collègues dans certains établissements pénitentiaires qui nous disent que malheureusement, la consultation arrivant, ils voient arriver des usagers de drogue qui sont en état de manque, sortant de garde à vue en état de manque. Le respect de l'éthique, évidemment, ça concerne toute la question du secret médical, professionnel, qu'abordera François. Le droit au maintien des liens familiaux et le droit à l'accès aux soins pris au sens large, l'emploi, le logement, la couverture des droits, la réinsertion. Alors, des prisons bien malades. Malgré des réformes majeures, je vous en parlais par rapport à celle de 1994, n'oublions pas non plus 2007, création du contrôleur général des lieux de privation de liberté et d'enfermement. 2009, la fameuse loi pénitentiaire qui a quand même mis plus de 10 ans à être élaborée. Désastre carcéral, surpopulation alarmante, conditions de détention indignes, augmentation des actes de violence, et puis bien évidemment, insuffisance global de moyens en personnel soignant, réinsertion et de personnel pénitentiaire, accès anormal aux soins, aux diagnostics et aux traitements selon les établissements, inexistence d'actions de prévention et de politiques de réduction des risques, insuffisance de mise en place de relais sanitaires et de réinsertion en post-carcéral, pardon, à tel point qu'une instruction DGOS vient de sortir, elle date de, je crois que c'est novembre, enfin en tout cas 2010, concernant la mise en place d'une meilleure coordination entre les différents services intramuros. Vous avez entendu parler sans doute du plan de rénovation qui a été annoncé en mai par le garde des Sceaux. D'ici 2018, création de 70 000 places, 25 nouvelles prisons, 7 extensions, 36 fermetures. La maison d'arrêt de la santé à Paris est annoncée comme fermant en 2014. 15 rénovations. 13 septembre, annonce du président de la République, création de 30 000 places d'ici 2017. Ce qui pose question. D'accord. Pour qui? Pourquoi? Et avec quoi?
Une petite précision à ce que vient de dire Sadia avant de passer la parole à Fadi. Une place de prison, ça coûte 100 000 euros à construire.